On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
C'est le dernier épisode d'On vous embarque qui clôture ce festival René Caillé du film d'aventure. Marine Tiroulet et son fils Nathan nous restituent leur parcours de 9000 km à vélo. On a rencontré aussi Olivia et Yves Chaloin pour le film Push Bush dans le désert namibien. Au micro de notre pigouille, Jérôme Audou, parti avec femme et bébé de 3 mois pour une traversée pyrénéenne, et la présence de Christian Clos qui, après 40 jours à 400 mètres sous terre, accompagné de 14 volontaires, a finalement retrouvé la lumière du jour. L'explorateur franco-suisse et tous les autres auteurs sont à retrouver dans cet épisode.
Bonjour,
comment vous appelez-vous ?
Martine Bossuet.
Vous êtes d'où ?
De Saintes, en Charente-Maritime.
Et vous êtes aujourd'hui au festival du film d'aventure René Caillé à Mosée. Pourquoi ?
Mais tout simplement parce que c'est le genre de festival que nous apprécions avec mon ami Gérard. Tout ce qui concerne l'environnement, les découvertes, les aventures que les gens mènent elles-mêmes, avec tout ce que ça représente, hein, le projet en lui-même, le déroulement du projet, ce qu'on peut y voir, ce qu'il nous apporte. Et puis après, lorsqu'il y a l'échange avec le principal acteur, eh bien là encore on apprend et on peut poser des questions et ça nous enrichit toujours. La nourriture en général, ils décrivent ce qu'ils emportent. On se pose quand même des questions parfois parce que ce qu'ils emportent ne suffit pas pour faire, par exemple, je sais pas, hier il y avait un film qui représentait 60 et quelques jours. Il faut bien que pendant ces 60 et quelques jours, ils arrivent à renouveler leur alimentation. Donc c'est des choses comme ça qu'on pose comme question. Puis le temps qui passe à observer, à attendre, à comprendre la nature pour pouvoir capter après l'image et nous transmettre à nous, spectateurs, tout ce qu'il y a de plus beau.
Est-ce que vous êtes aventurière ?
Non, pas vraiment.
Pour vous, c'est quoi l'aventure ?
Passer outre nos habitudes, c'est donner plus, aller vers ses limites, aller jusqu'à ses limites, voire les dépasser. Et puis après, soi-même, voir de quoi on est capable, parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable, en fin de compte, dans tous les domaines. Il suffit qu'on soit confronté à une réalité pour qu'on se découvre justement nos capacités, et on est loin de savoir toutes nos capacités.
Qu'est-ce que vous attendez pour cette dernière journée du festival ?
Encore des surprises, bien sûr, encore des découvertes, des choses que je ne connais pas, des paysages que je ne connais pas, des façons de vivre que je ne connais pas, des peuples que je ne connais pas. Ben, je suis en admiration devant ces peuples qui vivent avec très peu. Il y a toujours quelque chose à voir, à entendre.
Bonjour Romain.
Je suis de Mosée, et il y a des années que je viens au festival, donc voilà, je suis un fidèle parmi les fidèles. Là, je suis spectateur et profite de ces rencontres. La proximité avec les voyageurs, l'authenticité, l'interaction directe, ça nous fait voyager en restant à Mosée, donc c'est extraordinaire.
Êtes-vous aventurier vous-même ?
On voyage, de la dire aventurier, je sais pas, mais on voyage pas mal, oui. L'aventure, c'est simplement sortir de chez soi, déjà, et sortir de son quotidien, de sa routine, pas simplement aller au travail et faire les activités habituelles, c'est faire autre chose, quelque chose dont on n'a pas l'habitude. L'aventure, c'est la rencontre que l'on va faire, en fait. Hein. Chaque film et chaque rencontre était très, très différente. À chaque fois, je me dis, celle-là, elle est extraordinaire, celle-là, elle est géniale. Puis au final, ils sont tous vraiment super, dans des domaines différents, avec des motifs de voyage différents. J'étais même à l'avant-première à Valan, parce que la rencontre était géniale aussi, avec ce monsieur qui est parti en vélo faire des dizaines de milliers de kilomètres. Hier soir, c'était très artistique, par exemple, le photographe sur la neige, c'était très artistique, mais en même temps, il est dans le froid, moins 40, lui aussi vit son aventure. Donc, voilà.
Ville située en pleine nature, isolée, à 547 km de la première ville la plus proche.
Tous les deux à vélo, hein, y compris Nathan. Nathan avait 9 ans quand ils sont partis. 16 mois d'aventure, à peu près 10 000 km. Une traversée ouest-est du Canada, puis une descente jusqu'en Floride. Rien que ça.
Oui, bonjour. Marine, Nathan, donc on est de La Rochelle, on n'est pas très loin. Et voilà, on vient d'arriver du mois de juillet, donc on vient un petit peu de, d'atterrir. On a essayé de terminer le film il n'y a pas très longtemps. On espère que ça vous plaira. Enfin, on y a mis tout notre cœur, on voulait faire au mieux et transmettre et partager un petit peu notre aventure qui s'est plutôt bien finie. On a pu aller jusqu'au bout, donc on est super contents.
À partir de l'âge de 3 ans et demi, que Nathan et moi partons à vélo pour la première fois, pour 3 jours au bassin d'Arcachon. L'expérience est validée. Nos vacances vont continuer ainsi. Par la suite, nous allons réaliser l'Entre-deux-Mers et le canal du Midi de Créon à Narbonne en 9 jours. On arrive sans hébergement précis, mais voilà que la rencontre d'une cycliste nous propose spontanément sa maison. La générosité tout au long du parcours commence.
C'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à être sur des pistes cyclables. Clairement, il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Après, on n'était pas souvent... Enfin, il y avait du circuit routier, mais on avait quand même souvent des accotements sur la route. Dans l'Ouest canadien, la circulation est plutôt, je dirais, assez tranquille. Il faut rester attentif, hein, forcément, mais certains moments où ça pouvait être fatigant. Pour les enfants, il n'existe pas grand-chose. On a acheté un vieux vélo Décathlon et qu'on a tout démonté. En fait, on a gardé que le cadre. Et qu'on a fait monter par un vélociste approximativement comme le mien.
C'est sûr que dans les montées c'était dur, mais quand c'était plat ça allait. Des fois je posais le pied.
Une fois qu'on a passé Calgary, on a fait 200 km de plaine et on a été sujet au vent de phase, donc on venait de finir les montagnes. Il a fait les montagnes tout seul, hein, je ne l'ai pas du tout aidé. Commencer même à pleurer sur le vélo sur ces 200 km là parce que c'était interminable, c'était vraiment du vent de face. Et en fait il n'arrivait pas à avancer, il donnait toute la peine, etc. Et là je commençais à me dire que ça allait. Il y aurait eu, je pense ça sur 2000 km, je pense que là il aurait un petit peu abandonné. Donc je me suis retrouvée effectivement à être attachée, enfin il était attaché derrière moi avec le vent de face, donc là c'est un peu moi qui ai souffert. D'autant plus que je suis toute seule avec lui et le paramètre justement des capacités de la fatigue, c'est hyper important. Alors l'avantage c'est que nous on avait déjà pédalé à vélo, donc je connais un petit peu quand est-ce qu'à un moment il en peut vraiment plus et le moment où, bon c'est juste qu'il a plus envie. On savait qu'il y avait des jours, alors par exemple des fois on a dû monter à 90-95, donc derrière on prend le repos, en général on s'arrêtait une fois par semaine. Je pense qu'on a plutôt réussi à bien s'écouter parce qu'en fait on n'a jamais eu de moment où on était tellement fatigué qu'on n'avait pas de problème physique qui nous obligeait à nous arrêter. Chaque endroit a eu ses difficultés, mais on ne s'est pas retrouvé vraiment, et ça j'en étais contente parce que je me disais que du coup on a quand même réussi à faire attention à ça, où on n'avait pas vraiment de courbatures intenses au point de ne plus pouvoir avancer. Donc bon, on a fait quand même 6300 km au Canada.
Je suis admiratif de votre parcours, de cette complicité que vous aviez entre vous, d'être à l'écoute réciproque, parce qu'emmener un gamin avec soi, moi ce que je suis admiratif de toi Nathan, parce que je vais t'appeler Nathan Lagnac, parce que pour faire ce que tu as fait à ton âge, c'est faux. Déjà une bonne volonté.
Alors moi je travaille à l'hôpital, donc je suis quand même toute seule avec un enfant, donc je peux pas vous dire que c'était j'assumais l'entièreté du projet toute seule. Donc du coup nous on avait déjà voyagé, donc on avait fait 6 semaines au Portugal et à chaque fois c'était frustrant parce qu'on voulait plus et il fallait rentrer. Donc on s'est dit suite à ça on va économiser et puis quand on pourra on le fera. Et je sais qu'il fallait poser une date. Et en fait, tout s'alignait bien parce que Nathan, du coup, était au CM1 et je me disais que c'était des années où on pouvait le déscolariser plus facilement plutôt que le collège. On a préparé donc, le voyage pendant 1 an et demi et on est parti en mars 2022 en se disant qu'on prenait que l'aller, le billet d'avion aller. Je m'étais dit, si on fait 6 mois, ça sera 6 mois. Au pire, on aurait terminé en transport. Quand j'ai préparé, il y a des nuits où je ne dormais pas parce que je me disais, c'est un peu fou. Mais voilà, qu'on se laisse l'opportunité d'essayer. On a beaucoup été hébergés, mais on partait avec notre tente. Hein, donc notre principale activité, c'était quand même notre autonomie. À part la nourriture, on a très peu été au camping, très peu été à l'hôtel. Alors on a acheté du très bon matériel et heureusement parce qu'on a démarré à du moins 2 degrés tout de suite. C'était notre projet, on n'a pas fait de projet immobilier. C'était notre projet de vie.
Après, il a commencé, il avait 3 ans et demi, donc en fait, pour lui, aujourd'hui, enfin, il se rend pas compte encore aujourd'hui de ce que c'est. En fait, quand on nous recevait, c'était surtout pour lui. Hein. Moi, j'aurais été toute seule, à mon avis. On me laissait sur le bord de la route, hein, mais c'était... Je pense que d'avoir aussi le support vidéo pour plus tard, ça laissera une trace. Sachant qu'en fait, on est de La Rochelle, mais on a déménagé de région, on est parti dans les montagnes. Parce qu'en fait, la région des Rocheuses, clairement, c'était assez exceptionnel. Donc on s'est dit, bah voilà, notre milieu, c'est les montagnes. La Rochelle, c'est pas trop les montagnes.
Tu aimes ça, Nathan ?
De quoi ?
Ces voyages
à vélo ? Bah oui, quand c'est pas trop long et quand il n'y a pas trop de montée. Et quand ça descend, bah j'aime bien.
Ben, faut le faire, quoi, toute cette expérience-là.
Est-ce que ça vous a plu, ce film ?
Énormément, c'est des exploits, presque auxquels on a peine à croire si on ne voyait pas le film, en fait. Il faut déjà, pouvoir avoir cette volonté. Hein. Nous, on a des petits-enfants, je pense, qui baissent les bras un petit peu à l'effort. Hein. Donc, on a un petit-fils, effectivement, qui aurait été certainement très marqué par... par la vision de ce film, hein. Donc j'ai pensé à lui d'ailleurs.
Oui, il y a beaucoup de questions qu'on puisse se poser après cette démonstration qui en représente vraiment une, bien sûr, pour tous les gens qui viennent voir ces représentations. Ça permet de se questionner beaucoup pour ce leçon de courage, d'endurance, beaucoup de leçons à retenir donc, par rapport à ces projections qui nous sont proposées. Oui, chaque année, ce sont de nouvelles choses à découvrir et c'est démonstratif pour beaucoup de choses, beaucoup d'expériences vécues et enrichissantes pour tous, quoi. Non, je ne suis pas un grand aventurier, donc ce qui me fait dire en même temps que c'est beaucoup de démonstrations de la part de ces personnes qui se lancent avec beaucoup de courage et d'endurance pour cette volonté que ça demande, quoi.
Oui, ça m'a beaucoup plu, oui. Non, très bien, avec l'étonnement de voir un jeune comme ça qui a suivi sa maman. C'est un état d'esprit, oui, puis positif. C'est une battante. Mais moi, j'ai bien aimé ce charisme, et puis cet enfant, quoi. C'est inspirant, et puis c'est rafraîchissant.
Je pense que dans quelques années, là, prochainement, on va repartir. Après, je ne sais pas, sûrement au départ de la maison. Je pense qu'il n'y aura pas une envie de prendre l'avion, parce que l'aventure commence là, et continuera par la suite. Alors après, à pied, à vélo, on ne sait pas.
Nathan a envie.
Alors pour l'instant, il est content d'être rendu. Je pense qu'il aura très vite envie de... On est assez curieux, donc on a plein de choses à voir partout.
Vous, votre envie du départ, c'était l'aventure, le Canada, ou de faire quelque chose avec votre fils ?
L'aventure première, c'était une expérience de vie à vivre ensemble, forcément à vélo, parce que c'était notre moyen de voyage. L'Amérique du Nord s'est imposée plus après, dans le sens où on ne savait pas si on allait repartir dans l'immédiat ou si ça allait être notre seul voyage. Et c'est des étendues très grandes et que ça remportait plein de critères qu'on s'était mis.
La deuxième, vous en attendriez quoi ?
Je pense que ça dépendra des objectifs qu'on se met. Nathan sera plus grand aussi, donc il y aura une gestion différente. Peut-être partir plus léger, j'ai ça ensemble, et d'être dans la découverte et la curiosité. C'est vraiment les bases qui nous donnent envie toujours de partir à l'étranger. Quoi. En fait, on était très épanouis à voyager, notamment dans les Rocheuses. Les montagnes, c'était vraiment le milieu où on était plutôt heureux. On vient de se réinscrire dans un quotidien... normal et donc on tente l'aventure, on voit si on s'y plaît.
Bonjour, je m'appelle Alain, je suis le technicien son et vidéo du festival et chargé également au niveau de l'équipe du festival, du site internet et de tout ce qui concerne la logistique.
Tu habites où, Alain ?
À Saint-Georges-du-Bois, donc je suis arrivé à la première édition du festival en 97 en tant qu'assistant au technicien son qui était Eric Jean, le directeur du centre socioculturel à l'époque. J'ai fait les 3 premières éditions comme ça et je suis revenu pour la 22e édition. Et depuis, je suis fidèle au poste, on en est à la 27e. Je suis ingénieur du son de formation. Pour la 22e édition, le groupe avait décidé de faire venir un comédien, pièce de théâtre, pour changer un peu du format film. Et sauf qu'un comédien demandait une fiche technique particulière, un micro-cravate, d'avoir des retours, d'avoir des choses un peu plus poussées que le groupe de l'époque, qui n'était pas forcément à l'aise avec la technique, n'avait pas l'habitude. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. Est-ce que tu pourrais pas venir nous aider ? Ben, je dis, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que ça fait quelques années que ça me taraudait de vous recontacter. Donc voilà. Il y a plusieurs choses. À la base, la sonorisation, la prise de son, c'est ma passion. C'est une manière de continuer à pratiquer cette passion. Et une manière aussi de ne pas perdre la main dans le milieu professionnel, parce que c'est des technologies qui avancent très très vite. Il y a une évolution à plusieurs niveaux. Déjà, sur les premières éditions, le festival avait lieu au mois de juin, en même temps que les fêtes René Caillé. Et le format du festival a changé aussi, parce que les premières années, il y avait une seule séance où on faisait venir un ou deux aventuriers maximum. Là, on est sur un format de 5 jours avec 2 à 3 séances par jour. Donc, on fait venir beaucoup plus d'aventuriers, une dizaine à peu près chaque année. On a toujours les mêmes fidèles depuis 27 ans et on a une marge de progression là-dessus. Exactement. Le site internet, j'ai également créé les réseaux sociaux, donc on est maintenant présent sur Instagram, Facebook. Oui, là, on en parlait justement à l'instant avec les autres organisateurs. On voit bien que là, ça fait 3 ans concrètement que qu'on est sur les réseaux sociaux et on sent que cette année, là, vu les chiffres des entrées depuis l'inauguration, on est en train de se diriger vers une année qui est peut-être l'année avec la plus forte fréquentation depuis les 27 ans. De toute cette nouvelle communication, de la diversité des personnes et des ateliers qu'on essaie de mettre en place. Il y a l'exposition, il y a la librairie nomade, tout ça n'existait pas au début. Il y a une diversité. Enfin, les 3 dernières années, je menais également un atelier dans la partie expo animation sur fond vert. Le principe, c'est d'être immergé dans un décor en temps réel. On se met en scène devant un fond vert et on se voit sur l'écran en direct sur l'Himalaya. Voilà.
Comme la météo ?
Exactement le principe de la météo. Là, je suis en train de travailler sur un atelier de réalité virtuelle qui peut-être sera présenté au festival l'année prochaine, si j'ai suffisamment de temps pour travailler dessus.
Ça représente beaucoup de travail.
Alors, la partie technique, ça représente beaucoup de travail, je dirais, surtout à partir du mois de juin. La période juin-novembre, là, ça monte crescendo. Au début de l'année, on commence à travailler sur l'édition suivante en janvier. En général, on se fait un break là, de mi-novembre à début janvier. Mais les premiers mois de l'année, c'est vraiment le travail sur la programmation. Donc, travail par commission au niveau de l'équipe. Il y en a qui s'occupent plus de la communication, d'autres plus de la programmation, la logistique. Après, la technique, du fait de mon expérience professionnelle, je suis le seul à la porter. La technique, elle intervient à partir du mois de juin, quand je crée de toute pièce la bande-annonce du festival, les vidéos de présentation, les visuels de présentation qu'on a en ce moment, dans quelques instants, push-bouche, pour annoncer les... C'est moi qui crée de toute pièce tous ces visuels. L'été, je travaille sur les bandes-annonces, après sur ces visuels, puis travailler sur la fiche technique pour voir est-ce qu'on a besoin exactement du même matériel que l'année précédente, travailler sur les schémas de câblage pour prévoir le matériel le jour J, l'installation, la sonorisation pendant le festival et puis le démontage après. Ah ben c'est ma passion, c'est voilà. Je veux dire, ben, vulgairement, je m'éclate, quoi. Je pratique vraiment ce qui est ma passion et de voir le public fidèle au rendez-vous, ça ne peut faire que chaud au cœur et donner envie de poursuivre. J'ai aussi des idées de projets pour développer le festival et rajeunir le public. J'essaie d'apporter du nouveau. J'aimerais bien mettre en place un partenariat pour faire venir le jeune public, un espace où les familles puissent faire garder leurs enfants pendant le festival pour leur permettre de bénéficier, de profiter pleinement du festival.
La suite au prochain épisode, c'est-à-dire l'année prochaine ?
Tout à fait, la suite au prochain épisode.
Alain, un bénévole sur qui on peut compter ce soir pendant tout ce festival d'ailleurs et qui a la lourde mission, responsabilité même de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on entend. Et on te remercie.
Merci à vous.
Olivia, les difficultés n'entament ni ma volonté ni ma détermination. Elles les renforcent. Une porte fermée est une opportunité pour en pousser une autre. Traverser la Namibie à vélo par la piste est un projet qui a de la dimension, du sens et qui me fait vibrer. À cela, Yves répond. À quel moment Olivia a-t-elle décidé de faire une traversée du désert à vélo ? Je ne le sais pas. J'ai peur que ce projet soit trop ambitieux. Mais Olivia est inarrêtable. Push-bush.
Quand je suis confrontée aux difficultés qui sont les miennes, il me connaît bien. Je n'ai pas besoin de faire semblant avec lui. Ça fait aussi vachement bien, je ne suis pas obligée de faire comme si ça allait alors que ça ne va pas. J'aurais beaucoup aimé la vivre seule, mais je ne peux pas. Donc le mieux que j'ai à faire, c'est de l'accepter et d'accepter l'aide qu'on me propose, parce qu'on la propose évidemment avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture. Peut-être que j'ai grandi. Peut-être que j'ai grandi après ces moult années d'expérience. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin. Tandem avec lui. C'est là que j'ai compris qu'en pédalant, je suis bien. Il y a une satisfaction immense. Et je vais oser le terme parce qu'il me vient, mais un peu de fierté quand même, ça y est. J'ai vu, on va dire, beaucoup de neurologues durant toute ma vie qui m'ont tous dit que dans mon cas, entre guillemets, le mieux c'était de ne pas trop pousser, de me reposer le plus possible et puis le chiffre magique c'était vous vous fatiguerez toujours trois fois plus vite que quelqu'un de valide, de normal. Le dernier que j'ai vu, à qui j'ai presque claqué la porte au nez, m'a dit qu'à partir de 40 ans j'allais être appareillée et que je ne devrait plus pouvoir marcher, être impotente à 40 ans.
Vous êtes à quel âge ?
J'ai 44 dans quelques mois.
D'amour. L'amour transpire à grosses gouttes à chaque coup de pédale.
Ce voyage que je bouge, c'est le voyage de l'imprévu, du début à la fin.
Trois semaines avant le départ, on m'a dit non. L'aventure, c'est accepter les choses comme elles arrivent et essayer d'y trouver des ressources et puis des belles choses, parce que quand c'est pas comme prévu, c'est pas un drame en fait. C'est un beau cadeau et moi depuis le retour, je suis habitée par la Namibie et je suis persuadée que j'ai encore des choses à y faire. Donc en fait, c'était pas du tout prévu, mais peut-être que ma vie va continuer par là-bas. Donc c'est un beau cadeau.
Le voyage, donc le long de ces routes, j'imagine que vous avez dû faire l'expérience de la tôle ondulée. Quel est votre retour là-dessus ?
C'est pas drôle du tout. La tôle ondulée est créée par les voitures qui passent sur les routes. Certains tronçons, notamment quand on s'approche des zones très touristiques de la Namibie où la tôle était toujours là. Mon retour, c'est que c'est vraiment pas drôle. Ça ralentit un vélo qui va déjà pas très vite, vous en doutez. Ça secoue, enfin c'est pas drôle quoi.
Je voulais savoir, ça s'est fait sur combien de temps votre...
Entre février et juin 2021.
En fait, on s'est évadé de France parce qu'on est parti, enfin elle a décidé de partir au moment où les frontières se fermaient à cause du Covid. Vous rappelez, on n'avait plus le droit de sortir d'Europe. On est vite passé en Suisse. On a envoyé le vélo en fret aérien.
En fait, j'ai Marie-Lou que vous voyez à l'écran qui a conduit la voiture. C'est une amie de longue date qui a commencé sa vie en Suisse, qui un jour est partie en Namibie et qui n'est jamais revenue, qu'elle connaît la Namibie comme sa poche. Quand les frontières australiennes se sont fermées, mon premier réflexe était d'appeler Marie-Lou et de lui demander si elle viendrait bien pour m'aider à construire un itinéraire. Donc elle est venue tout de suite et on a passé une soirée autour de la carte et on a fait l'itinéraire comme ça.
Elle voulait nous faire faire le tour des points touristiques et nous on voulait faire une boucle. Parce qu'à vélo, une boucle, c'est plus porteur que de faire des étoiles pour aller voir les dunes de machin et tout ça, dont on se fichait complètement. Donc en fait, on a bien écouté ce qu'elle nous a dit, on a fait autrement. Et voilà.
C'est entre 75 et 80 kilos en fonction du chargement, de la nourriture surtout. Parce qu'il y a ce qui est incompressible, type les 30 litres d'eau, c'est 30 litres d'eau. Hein, voilà. Le matériel pour vivre, c'est incompressible aussi. Ce qui est compressible, c'est la nourriture. Charger, sachant que le vélo tout seul à vide, il fait 32 kilos.
On va le mettre dans une pente à 15%, ce qui est fréquent en Namibie. Et vraiment 15%, hein, c'est pas du baratin, c'est vrai. Sur de la piste qui est un terrain meuble, et là, ça monte.
Avez-vous eu des sponsors pour vous aider financièrement ?
Pour ma part, je suis pas très douée en recherche de financement et en plus, c'est pas que je suis pas douée, c'est que j'aime pas trop ça. Je fais un minimum, je fais ce qu'il faut. Et on a eu la bourse des possibles à Lons-le-Saunier pour ça et on a aussi investi une institution pour personnes IMC comme moi, situation de handicap, qui ont eu la tâche de récolter de l'argent pour ce projet-là. C'est une façon de les impliquer et puis de faire en sorte qu'ils suivent sur toute la durée du parcours. Du coup, Colibri, donc ils nous ont pas mal aidé à trouver des financements aussi.
Vous pouvez être très très fier de ce que vous avez réalisé. On a vu un scorpion, on a vu un serpent, on voit des lions, et vous ne parlez jamais du danger. On a l'impression que vous avez voyagé sans véritablement être en danger, alors qu'on aurait...
Parce que, c'est ce que j'essaye de dire dans le film, en fait, tout le travail que j'ai essayé de faire, c'est d'accepter le désert tel qu'il est, et d'accepter ma condition d'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire que si moi je décide d'aller dans un pays où il y a des scorpions, où il y a des lions, où il y a des léopards, ben c'est mon choix. Je trouverais ça déplacé, moi, de faire un chapitre sur le danger alors que c'est moi qui décide d'y aller. J'ai vraiment essayé, dans la mesure du possible, d'accepter que je suis... Alors ça, si, c'est un truc qui est important à dire, c'est que je crois que c'est la première fois que j'étais dans un pays où j'étais... Enfin, où l'être humain n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que là, j'ai pris conscience de la vulnérabilité de ce que je suis, mais c'était très très, très très enrichissant, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Et parce que je me suis sentie petite, je ne vois pas... Enfin, voilà, le danger est là, oui. Si vous parlez à des Namibiens, ça dépend du temps que vous passez avec eux. Si vous passez une heure avec eux, ils vont vous dire que vous ne risquez rien. Si vous passez une soirée, une journée avec eux, ça change. Parce qu'ils vont finir par vous dire qu'il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 1 année, il y a eu un lion qui a mangé un touriste, il y a eu un accident là-ci ou là. Mais on est dans un pays où, comme vous l'avez vu à Deurit, ils vivent avec ça. C'est normal. La protection de la nature fait partie de la constitution en Namibie. Donc ils vivent comme ça, et moi, pour moi, c'était très très fort de vivre avec ma vulnérabilité, en fait, et de l'accepter.
Mais la première nuit, comme nous sommes des grands voyageurs, donc très malins, on a mis la tente sous un arbre, il y avait un arbre, et puis à côté, il y avait un plan d'eau. Alors c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc on a tout de suite fait ça. Et la nuit, on entendait des espèces de cris. Là. Alors là, je peux vous dire qu'on était, on faisait pas les malins. En plus, on s'est dit, la première nuit, t'imagines, on aurait vraiment l'air de Benet. C'était des babouins, en fait.
Il y a effectivement des grands félins. Ils sortent en général le matin, moi aussi.
Quelle est la plus haute température que vous avez subie ?
Ce qui est dur au-delà de la chaleur, c'est la sécheresse de l'air, en fait. Couplé à la chaleur, c'est un des pays où l'air est le plus sec au monde, et donc ça fait des trucs bizarres sur l'organisme. Je pense qu'au-delà de 40, oui, combien, je ne sais pas exactement.
Alors moi, j'ai trouvé ce film très beau, très émouvant. Il soulève la question existentielle de la démarche, je trouve. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu.
Je pensais à vous, Yves. Est-ce, après votre problème de santé, est-ce que vous êtes remonté sur un vélo? Et est-ce que vous avez refait des voyages? Et également, question pour vous deux.
Remonter sur un vélo, oui, bien sûr. J'ai même, cette année, fait des choses que je n'avais jamais fait aussi bien, aussi vite. Donc ça va mieux qu'avant. J'ai eu un petit infarctus à 64 ans. J'ai 64 ans de nouveau devant moi pour faire des choses à vélo. Je vais essayer d'en profiter. Et puis des projets de voyage... Depuis 2 ans, on emmène un projet avec Olivia qui s'appelle Milborne. En fait, Milborne, on prend des gens, vous savez, les gens à qui on dit tout le temps, toi, tu peux pas, c'est trop dur pour toi, tu y arriveras pas. Alors, ils sont tout petits, tout racornis, parce qu'à force d'entendre dire qu'ils sont bons à rien. Alors, nous, on leur tape sur l'épaule, on leur dit, ben, puisqu'on te dit qu'un truc moyen, c'est trop dur pour toi, on te propose un truc très difficile. Donc, on fait un groupe de 5 ou 6 personnes qui, pour la plupart, font pas ou peu de vélo, et on les emmène faire Milborne à vélo. Donc la première année, on a fait Lons-Biarritz avec le col du Tourmalet. Et la deuxième année, on a fait une boucle. On est parti de Lons-le-Saunier jusqu'en Provence et on est remonté par le Mont Ventoux. L'an prochain, on repart, on va faire l'Alpe d'Huez. Donc ça nous occupe beaucoup. Et je sens que je ne vais pas tarder à retourner en Afrique. Et comme je n'aime pas la chaleur, je fais ce que je peux pour retarder l'échéance. Je voulais juste dire un mot pour Marie-Lou. C'est une amie de très longue date et comme l'a dit très justement Olivia, elle nous a dit pendant 20 ans d'aller la voir en Namibie. Puis quand elle a dit, quand elle a arrêté de travailler, elle a dit ben, je quitte la Namibie, je rentre en Suisse. Et là on lui a tapé sur la poule, on lui a dit ah non, maintenant nous on y va. Alors elle s'est mise à notre disposition. Donc c'est elle qui conduisait le caméraman qui est venu 2 fois 5 jours. Et Marie-Louise c'est une experte de la Namibie qui connaît le pays comme sa poche, qui connaît toutes les ressources de la Namibie. Alors voilà, c'est sympa de dire un mot pour elle. Et à la fin, on s'est plaint parce qu'on lui a dit, mais on n'a pas vu de léopard. Elle a dit, t'inquiète pas, eux, ils t'ont vu. Voilà.
Et un dernier petit mot pour Cédric. Cédric, c'est donc le réalisateur du film qui n'aime pas trop parler de ses films. Il aime beaucoup les faire et pas trop en parler. Ce témoignage existe parce que c'est Cédric et parce que j'ai une confiance absolue en lui. C'est un long travail. Pour moi, ce film est une réussite parce que c'est Cédric. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on partage les mêmes valeurs. Yann Thomas, qui est le concepteur de Gulle et qui, comme vous l'avez compris, est décédé. D'une attaque cardiaque le premier jour du voyage Push-Bush. Encore une fois, un voyage comme ça, ça n'existe que parce que autour de moi, autour d'Yves, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ça marche. Le jour de son départ, j'ai vraiment eu une espèce de doute. forcément. Parce que construire Gulle, pour lui, ça a été très très compliqué. On s'est même pris la tête autour de la construction de ce vélo-là. On se réconcilie de justesse, il décède, et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Voilà. Donc je suis partie et j'ai réussi, je pense aussi, parce que Yann est là, pas trop loin, et qui regarde.
Qu'on continue avec Bébé Décime, donc avec Jérôme Audou et son fils Hermès, et donc la dernière séance après, donc avec Christian Clos, avec le film Deep Time, ou comment on vit dans une grotte à 40.
Non, moi j'ai vraiment adoré, c'était très émouvant, j'ai adoré le côté très nature de cette personne, vraiment très très chouette. J'ai adoré les images. Moi-même, j'ai voyagé en Namibie avec mes enfants. Et vraiment, ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Mais j'ai adoré son humilité, surtout. Une personne qui est très, très, très humaine, très humble. Pour quelque chose d'aussi compliqué, ça m'émeut. Je suis vraiment impressionnée de voir une personne donc, qui a un handicap et qui le reconnaît, pouvoir réaliser des choses comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça beau et je pense que cette dimension, surdimension humaine est magnifique, quoi. C'est chouette de voir une femme forte aller jusqu'au bout de ses convictions tout en étant tout à fait dans ses limites, disant, écoutez, si j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Il n'y a pas le côté trop soldat, c'est vraiment, écoutez, je vais faire ce que je peux.
Vous restez ?
Je reste.
Ah oui, c'était vraiment fantastique. Et je trouve que ça nous donne une bonne leçon de morale. Et aussi bien cette volonté qu'elle a eue de faire tout ça, quoi. C'est magnifique, je trouve. Il y a une volonté de faire, là. Un exemple. C'est parce que ma sœur et mon amie voulaient venir, donc elles me l'ont proposé.
Alors, vous êtes plutôt contente du résultat ?
Voilà, très bien. Très, très bien. L'ambiance est chaleureuse. C'est vraiment très bien.
Très bien, très, très bien. Ça nous dépayse. Super. À chaque fois, je passe des super moments ici.
On poursuit avec l'aventure en famille cet après-midi, avec Jérôme et Hermès, qui vont représenter le film de la famille. Même si, à l'époque des faits, c'était pas Hermès, mais sa grande sœur Ariane. Donc, ce couple. Ah,
j'ai pris la doublure aujourd'hui.
T'as pris la doublure. et donc, Jérôme et sa compagne Alizée ont eu l'idée un peu folle, avec un bébé de 9 mois, de faire la traversée des Pyrénées, hein, donc de la Méditerranée à de l'Atlantique. Bien sûr, tout ça à pied. Donc ça fait à peu près 900 km. Ils ont bivouaqué, parce que c'est plus rigolo.
Alors le collège de Mosée s'appelle le collège René Caillé. Et donc on est quand même très imprégné de l'aventure de notre illustre Moséen. À l'occasion du festival, au collège, on met en place un club film d'aventure, où les élèves voient en avant-première les films du festival et décernent leur coup de cœur. C'est Bébé Décime qui reçoit le coup de cœur des collégiens.
Nous, en 5e, on a fait un voyage aux Pyrénées. Alors, moi, j'ai pas pu faire du ski, mais j'ai bien plu parce que j'ai bien vu les Pyrénées et ça m'a plu.
Alors, moi, ce que j'ai aimé dans le film, surtout, c'est quand, en fait, vous avez commencé à marcher, vous avez essayé de marcher tous les Pyrénées. Et quand je vois que vous avez le bébé dans le dos, ça a dû être une sacrée ascension pour...
C'était génial. Et il y avait des moments rigolos, des moments un peu plus durs.
Et peut-être avant de lancer le film, on a l'habitude de donner une petite citation de Paulo Coelho. Donc c'est, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle.
Cette première ascension nous apprend beaucoup de choses sur nos capacités à tous les trois. Elle nous rappelle ce que nous sommes venus chercher dans cette aventure. Une intense sensation de liberté. À partir de ce jour, on est soudés comme jamais. On forme une vraie équipe. Et surtout, on s'écoute et on se fait confiance.
Oh,
Bon bah on est dimanche. Torturés par la faim, nous fouillons nos sacs à la recherche d'une trace de nourriture. Nous mettons la main sur une poignée de cheveux d'ange, un reste de semoule, un demi-bouillon cube et un soupçon de curry. Jérôme transforme le tout en un plat minute peu ragoûtant. Le Karite, c'est le plus haut sommet du coin, des PO, de 1920 je crois.
La FFME a prévu notre arrivée puisqu'ils ont construit un petit parc pour enfants pour Ariane au sommet du Karlit. Sympa les gars, hein, merci.
Après avoir gravi le Canigou, nous voilà au sommet du Karlit. En bon conquérant de l'inutile, on commence à prendre goût à l'altitude. La confiance nous gagne. On se voit déjà gravir avec Ariane tous les mythiques sommets pyrénéens. Mais pour l'heure, fini de rêver. Il faut se remettre rapidement en route car la météo se gâte et la descente face nord s'annonce délicate.
On est dans la descente du Karlit et là, là c'était un peu raide. Alors on a escaladé ce petit truc là, enfin désescaladé.
Après l'orage, on se remet de nos émotions en profitant des sources thermales qui ont eu la bonne idée de couler le long du GR10. Aujourd'hui, on quitte les Pyrénées orientales pour l'Ariège. Et on nous a prévenu, le ravitaillement, à partir de maintenant, deviendra compliqué. On part donc pour 5 jours d'autonomie dans les montagnes. En bon ingénieur, Jérôme a fait les calculs. Compte tenu de notre charge et du dénivelé, il nous faut avaler environ 4000 calories par jour et par personne. Soit 1 kg de nourriture hyper calorique chacun.
Tu sais que le ciel sera toujours bleu au-dessus de ta tête et la terre toujours marron au-dessus des pieds.
Vamos, on les vélos, on va en Iran.
Let's go.
Alors ça, c'est le porte-bébé qu'on aurait bien aimé avoir dans les Pyrénées, parce qu'on est en fait 3 jours avant de partir, on n'avait pas de porte-bébé. Du coup, on a fait comme tout le monde, on est sur le bon coin, puis on en a trouvé un à 30 euros. Et il n'était pas hyper confortable, quoi. Mais ça, on s'en est rendu compte un peu tard. Ça s'est passé en 2020. On était enfermés dans 35 mètres carrés avec notre bébé. Je peux vous dire qu'on avait une sacrée envie de liberté après tout ça. Et après le film, là, on voit, on part en vélo. Et c'est ce qu'on a fait. Le parrain de notre fille Ariane, il nous a ramené nos vélos arrivés à l'océan. On a chargé tout ça, puis on est reparti sur notre projet initial un peu têtu. Et on a cheminé comme ça direction l'Iran. Alors, on n'est jamais allé en Iran, parce qu'ils n'avaient toujours pas décidé de rouvrir les frontières, nos amis iraniens. Mais on a fini le voyage en Géorgie après la Turquie et on a continué à voyager ensuite parce que ma conjointe elle est tombée enceinte du petit bout de chou que vous avez vu tout à l'heure. Et on a recommencé le voyage quand il avait 4 mois et puis il a voyagé jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait. On était au Maroc cet hiver à vélo et voilà.
Oui, salut, c'est vraiment formidable. Déjà le film, super bien filmé, plan de coupe, tout ça, intéressant, humour. Et je voulais savoir quelle était votre préparation dans les randos de montagne, quoi.
Déjà, il y a une préparation qui fait que moi et ma conjointe, on se connaît bien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et du coup, ça c'est une longue préparation, mais on aime la montagne. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux des sacs de 20 kilos, et on pouvait se les échanger à mi-journée, parce qu'il y avait des portages qui font un peu plus mal aux épaules, ou à la ceinture, etc. Donc ça, c'est une première chose qui était bien. Pour ce voyage spécifiquement, en fait, on est parti 2 semaines autour de chez nous à pied, juste à la sortie du confinement, puis à moment, on s'est dit, bon, on y va, on va voir. Alors, on avait peu de doutes sur le fait qu'on irait jusqu'au bout. On se disait, mais on part et puis on verra.
De marcher en sandalette.
Oui, c'est un choix assez justifié. Alors, on avait des sandales, on le voit dans le film, et on avait une paire de baskets de trail chacun. En fait, ma conjointe s'est mise à marcher avec ses sandales parce qu'elle en avait marre d'avoir des ampoules. Et puis moi, j'ai trouvé ça chouette et puis j'ai essayé. Et en fait, c'est vachement bien pour 80% du chemin quand ça déroule, quand c'est facile. Bon, on a les pieds à l'air, on n'a pas d'ampoule, on n'a pas de sudation, pas de chaussettes à laver le soir. Le matin, quand on part à la fraîche, on s'en fiche qu'on se mouille un peu parce que ça sèche plus tard. Et du coup, on marche beaucoup en sandales et dès que le terrain il devient accidenté, on met nos baskets de trail ou quand il fait froid. Le fait de faire beaucoup fonctionner sa cheville sur des micro-mouvements, ça finit par la renforcer. On n'a jamais eu de problème aux chevilles sur une traversée, donc on n'est pas sensible de base. Je pense que ça finit par renforcer.
Pourquoi le choix Banyuls-Hendaye plutôt pas Hendaye-Banyuls, parce que 90% des gens font Andias-Banyuls.
Ouais, on n'aime pas faire comme tout le monde. Nous, on est montpelliérains et ça a plus de chance, enfin plus de sens de marcher de la mer qu'on connaît pour aller vers l'océan, vers le lointain. Et l'autre facteur que nous on trouve important, c'est que bah, quand on va dans ce sens-là, le matin quand on part, on a le soleil dans le dos. C'est plutôt agréable. Et après, je pense que les tracés sont prévus souvent dans l'autre sens parce que le Pays Basque est plus progressif, on va dire, sur le dénivelé, alors que dans l'autre sens, on prend 1000 mètres de dénivelé là le premier jour. Mais on a vu pas mal de gens qui arrivaient du Pays Basque et qui se sont fait mouiller pendant 4 jours, et ça a de quoi mettre le moral dans les chaussettes, alors que côté Pyrénées orientales on est plutôt tranquille de ce côté là donc moi nous on le conseille à la plupart des gens qui voudraient faire la traversée dans son entièreté, de partir de Banyuls. On a filmé avec ça, et le son se fait aussi avec ce téléphone. C'est pour ça que des fois vous voyez quand il y a du vent, on a rajouté des sous-titres parce que on peut pas protéger les micros sur ces téléphones, ce qui est un peu dommage. On n'est pas des professionnels de la captation d'images. On s'était dit, de toute manière, on n'avait pas dans l'idée de forcément de faire un film. On s'est dit, si on ramène pas d'images, il y aura pas de film. Donc voilà, on essaye comme ça. C'est la première fois qu'on faisait un film, donc on s'est dit, voilà, on se met les chances de notre côté en ayant quelque chose de petit qu'on peut facilement sortir et poser et utiliser.
Il y a eu des casses matérielles ou trucs comme ça?
On n'a pas eu de casses matérielles dans ce voyage, ni de casses humaines. Aucun bébé n'a été blessé pendant cette traversée.
Est-ce qu'à un moment vous comptez le refaire, mais avec les enfants quand ils seront plus grands?
Alors oui, je pense qu'on refera ce voyage-là, mais là on a une autre grande traversée de prévu. On aimerait faire la traversée complète de l'arc alpin, donc de la Méditerranée jusqu'en Slovénie, avec les deux enfants, ou peut-être trois quand on aura commencé, on ne sait pas encore. Et on aimerait faire ça avec des chèvres. En fait, c'est des boucs castrés sur lesquels on remet un petit bât, comme les ânes, des versions miniatures, qui peuvent porter une dizaine de kilos. Et parce que les chèvres, elles peuvent nous accompagner un peu sur n'importe quel terrain, faire des sommets. Elles mangent à peu près tout ce qui est végétal sur cette planète. Et je pense qu'il y a, pour à peu près 6 mois de traversée, il y a quand même à peu près 3000 kilomètres. Ça dépend, on part 1000 façons de les traverser, ces Alpes, mais ouais, c'est à peu près ça. Donc on part à la fin de l'hiver pour arriver au début de l'hiver d'après.
Comment vous chargez les téléphones dans les Pyrénées?
Alors on avait un petit panneau solaire qu'on utilisait en plein soleil, on branchait le téléphone et on le chargeait comme ça. Ça marchait plutôt bien, mais ça nous arrivait plusieurs fois de tomber à court de batterie, sachant qu'on faisait à la fois la captation d'images avec le téléphone, le GPS, la météo quand il y en avait, mais ça fonctionne plutôt bien. Après aujourd'hui, à refaire, peut-être même je partirais juste avec une batterie à recharger de temps en temps quand on trouve des villageois. On essayait quand même de contraindre nos usages au strict minimum.
Oui, votre objectif de départ était de suivre le GR10, tout compte fait, après vous avez pris une autre option. Est-ce qu'elle a été valable ou pas?
Alors on s'était pas contraint au GR10, on avait juste pris les tracés du GR10 dans nos sacoches en se disant bon, ça fait une base pour savoir où on va. On s'était toujours laissé l'option d'aller faire la fameuse HRP qui est la haute route pyrénéenne, qui est un itinéraire dont l'idée est de rester le plus au niveau des crêtes et de pas trop redescendre en fond de vallée. Et du coup on a varié un peu les plaisirs, et c'est vrai que c'est chouette, l'itinéraire de la HRP notamment permet de se retrouver un peu seul dans la montagne, et on peut marcher un jour ou deux sans croiser personne, et ça, c'est assez incroyable, quoi. On finance nos voyages... Oui, c'est la question qui fâche. Avec nos économies, sachant que quand on voyage, ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent, puisqu'on se déplace avec nos jambes, soit à pied, soit en vélo, à manger nous-mêmes, et on dort dans notre tente, surtout. C'est les gros facteurs qui plombent le budget en général. C'est le transport, le logement. Et sachant que dans les Pyrénées, peut-être... Ensuite, on a beaucoup voyagé à vélo, mais c'est peut-être à pied que ça nous coûtait le plus cher, parce qu'on se ravitaillait des fois dans les petites épiceries, on mangeait beaucoup, beaucoup, du saucisson, des fromages, des produits qui sont assez protéinés et qui coûtent assez cher. Mais ça reste, en fait, ça reste hyper raisonnable. Quand le seul poste de dépense, c'est la nourriture, on peut voyager longtemps comme ça. N'en déplaise à mon patron. On a des boulots comme tout le monde. Moi, je suis dans le privé, ma conjointe, elle est dans le public, mais on était en congé parental pendant toutes ces aventures-là. Congé parental, c'est un congé qui est ouvert à tout le monde. C'est un congé sans solde de droit qu'on peut faire jusqu'aux 3 ans de son enfant. Le temps libre, pour nous, on l'a géré comme ça, sans quitter notre job. Donc c'était assez confortable. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des enfants. Ouais. Ariane, du coup, qui était petite et qui a grandi en voyant un peu ce film, qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui? Alors, elle l'a vu plus de fois que nous, le film, parce qu'elle reste souvent dans les salles de projection et nous non, donc elle connaît les répliques par cœur. Et ça lui construit un peu son souvenir, je pense, au fur et à mesure de voir et revoir ces images. Elle a passé la plupart de sa vie dehors, soit dans un porte-bébé, soit dans une carriole, soit sur son vélo, et du coup, elle, ce qu'elle aime, c'est être dehors, et c'est là qu'elle se sent bien, quoi. Et le petit bout de chou qui est là, c'est un peu pareil. Après, nous, on trouve ça chouette quand même d'avoir ces images pour entretenir. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent la question, c'est dommage, vous partez avec des enfants qui sont petits, ils n'auront pas de souvenirs, mais pour nous, on sait qu'ils vont se construire avec ces voyages et dans cette philosophie-là, et même s'ils n'ont pas un souvenir précis, c'est ça qui va participer aux adultes qui vont devenir. Donc on pense que c'est assez précieux ces années-là, même s'il n'y a pas de souvenir précis, c'est leur personne qui va bénéficier de tout ça, quoi. Et puis ils sont plutôt débrouillards.
Plus tard, vos enfants, quand ils sont adultes, s'ils veulent faire la même chose et ils veulent vous emmener, par contre, vous ferez comment, du coup?
Il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais on a un plan dans notre... Alors, c'est toujours bien d'avoir des objectifs, et nous, on a un plan de vie. Notre objectif, c'est de devenir musher d'enfants. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de finir dans les carrioles tirées par nos enfants. Et c'est pour ça qu'il nous en faut 4 au minimum, parce que bon, en dessous, ça fait quand même beaucoup de charges à charrier. Nous, on les encouragera à aller dans cette voie, hein, ça, il n'y a pas de doute. Après, ils feront ce qu'ils ont envie de faire, et nous, on les soutiendra. Donc cette aventure-là, moi, alors on s'est partagé le travail comme on aime bien se partager les choses. Moi, j'ai réalisé un film et Alizée, elle a écrit un livre donc qui raconte un peu cette aventure et en plus qui donne plein de conseils pour les jeunes parents qui voudraient voyager avec des enfants ou tout autre marcheur qui aimerait traverser les montagnes à pied. C'est illustré par une super autrice de BD qui s'appelle Marie-Lou Le Sage. Et c'est disponible sur le stand de la librairie de Muriel. Donc je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle Nomade, Sauvage et Parents. Donc si vous avez des idées de cadeaux de naissance pour des jeunes parents. Nous, au maximum, on met des jeunes familles dehors avec leurs enfants, au plus on est heureux. Dehors, je parle en aventure.
Merci à Jérôme. Et pour nous, l'aventure continue. Dernier film.
C'est un film sur la parentalité. Une aventure en montagne avec un enfant. C'est pas un film sur la montagne. Par contre, je suis venu le voir avec les yeux du film que nous avons vu hier sur la traversée du Kyrgyzstan, hein, et ce jeune Jérémy qui a fait la traversée des Pyrénées. J'étais venu voir les Pyrénées, j'ai vu des parents heureux.
Des paysages magnifiques.
Oui, très bien, oui, intéressant, bien.
Oui. J'ai fait beaucoup de camping en itinérant, mais j'aurais pas osé les monter si haut, moi, Lénia.
Très bien, non, c'est sympa en plus, c'est gai, c'est...
Il y avait beaucoup d'humour.
Ah oui, faut oser, hein, de faire ça, c'est bien. Ah bah oui, avec un enfant.
Moi-même,
oui.
Je voulais avec un enfant.
Christian qui vient déjà pour la troisième fois sur notre festival, et ça c'est quand même un très grand hommage. Donc il est venu une première fois pour le prix René Caillé, pour le livre C'est Ultima Cordillera. Il est revenu pour nous présenter Aventure 4x30 jours, voilà, où ce sont des expériences en milieu extrême, suivies de check-up médicaux, suivies d'autres expériences en milieu extrême pour comprendre l'adaptation du corps, car c'est un peu son leitmotiv. Et ensuite, maintenant, il revient sur Deep Time pour nous présenter une expérience de 15 personnes dans une grotte, sans soleil, sans montre, pour là aussi voir comment le cerveau se synchronise. Dans ta prime jeunesse, tu étais acteur, metteur en scène. Tu es également dessinateur, écrivain.
Auteur de bande dessinée, pas dessinateur du tout.
Tu as été aventurier. Tu es explorateur. Et là, je fais un petit clin d'œil à Jean sur la notion d'aventurier et explorateur, et scientifique. Vice-président de la Société des explorateurs de France. Et surtout, tu as créé, alors ça c'est très très important, un institut sur l'observation au niveau humain, Human Adaptation Institute, qui a pour fonction d'explorer les fonctions cognitives et adaptatives de l'être humain face au changement. C'est comment l'être humain s'adapte au changement, tant sur le plan cérébral, au niveau de nos émotions, de nos pensées, qu'au niveau corporel. Vraiment, il y a ce désir de compréhension et d'adaptation pour comprendre l'adaptation et le changement.
Et c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux.
Et dans ton livre, alors tu as écrit un livre, c'est... qu'est-ce que l'exploration au XXIe siècle ?
Partir sur une grosse expédition dans 4 milieux extrêmes différents pour étudier l'impact du climat sur l'humain. On était prêt à partir le 12 mars 2020 et le 16 mars, vous savez tout ce qui est arrivé. On a lancé une grosse étude sur la Covid, on a suivi 10 000 personnes avec mon institut pendant toute la période Covid. Et à un moment donné, on a vu vraiment un phénomène assez intéressant, c'est que les personnes, malgré qu'ils étaient encore dans une vie avec le soleil, leur montre et tout ça, à partir de septembre 2020, commençaient à perdre la notion du temps, la capacité de projection vers le futur, la capacité de comprendre ce qu'était leur journée, leur installation dans la semaine et ainsi de suite. Et on a vu que plus de 52% de la population avait du mal à se répertorier dans le temps, dans la temporalité. On parlera après de l'importance du temps pour le cerveau, mais moi j'ai voulu essayer de comprendre ce que ça voulait dire, et en plus j'avais toutes mes équipes, moi j'avais 40 chercheuses et chercheurs, plus 20 personnes, plus 200 bénévoles, qui attendaient impatiemment de pouvoir faire cette fameuse expédition climatique. Et il fallait que je trouve une solution pour les occuper, entre guillemets, et Deep Time est né. Je vous laisse avec le film, et puis je vous raconterai après ce qui s'est passé. Merci.
On va tous passer de l'autre côté, on va fermer cette porte à clé et on va être dans la grotte pour les 40 prochains jours. Ça vous va? Si vous avez un dernier doute, c'est maintenant. Vous avez encore le droit de ne pas franchir cette porte et de décider que pour vous, 40 jours, c'est trop long. Mais si vous en avez envie, alors c'est maintenant qu'on le fait. Ça marche? Alors je vous laisse passer un par un. Arnaud, Tiphaine et Lily.
Je ne vis pas dans 40 jours.
Hein. Dans 40 jours.
Je crois que c'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé ce qu'on était en train de faire. Je viens de m'enfermer avec 15 personnes dans une grotte. Sans aucun accès à la lumière du soleil, sans aucun accès à une information temporelle, sans aucun accès à l'extérieur. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et à la fois, on va faire quelque chose d'unique, alors ça me transporte. Ce projet d'expédition, je crois que c'est un des plus fous, un des plus complexes que j'ai monté depuis 25 ans, que je mène des expéditions dans le monde entier, parce qu'on a voulu le monter très très vite. C'est parti d'une situation qu'on a toutes et tous connue, c'est la Covid-19, qui soudainement a confiné les gens chez eux. Et à un moment donné, on était plus de 5 milliards sur la planète à être confinés en même temps. Une situation complètement folle et qui a amené, à un moment donné, au fur et à mesure des différents confinements, des pertes de notion du temps, des pertes de compréhension de l'organisation d'une journée, des pertes de capacité à se projeter dans le futur. Bref, les gens ont commencé à se désorienter. J'ai immédiatement repensé aux fameuses missions CIFRE qui s'enfermaient dans des grottes pour essayer d'évaluer la compétence du cerveau et du corps à comprendre le temps. Et je me suis dit qu'il fallait monter ce genre de projet, mais avec un groupe. Il fallait le faire maintenant, tout de suite, pas dans 5-6 ans. On a cherché de femmes et d'hommes. On a installé un espace de sommeil. On a installé une cabane scientifique. On a monté un plancher intégralement pour pouvoir non seulement protéger la grotte, mais aussi avoir un espace de vie. Une installation incroyable qui s'est faite en 4 mois.
Expérience. Donc vivre sans repère temporel pendant 40 jours, ça je...
C'est l'aventure, j'adore.
Moi je connais plein de collègues qui ont dit non, je le ferai jamais. Non, sans moi.
Lombrive est une vaste grotte de plus de 4 km, sur deux niveaux séparés d'un gouffre de 80 mètres, dotée d'immenses volumes comme la salle de la cathédrale, qui pourrait contenir Notre-Dame de Paris. Nous avons installé le camp de vie dans la galerie du cimetière, à 800 mètres de l'entrée, un peu plus de 700 mètres nous sépare ensuite de la cabane scientifique et de la galerie du Lion, où notre espace de sommeil est installé. Une zone de silence où chacun doit pouvoir respecter absolument ses propres rythmes.
Se réveiller dans le noir absolu, c'est particulier. Le réflexe de chercher une montre ou un téléphone pour avoir l'heure est vite déçu. Il reste que nous, nos propres signaux. Une perception fine de nos sensations qu'on a un peu perdues au fil des siècles. Il faut se la réapproprier. C'est notre seul indicateur du temps qui passe. On est maintenant pleinement dans cette expérience hors du temps.
Une édition spéciale pour un événement spécial. C'était les épisodes On vous embarque qui vous rendaient compte de ce festival René Caillé du film d'aventure. Le prochain On vous embarque à découvrir très rapidement sur Pigouille Radio.
On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du marais.
On vous embarque.